Alors, dans le cadre de mon travail, je travaille sur des réseaux de plomberie, c'est-à-dire des réseaux d'amenée d'eau, sur des bâtiments qui sont neufs, c'est-à-dire que un an avant, c'est un champ plein de gazon, et un an et demi après, vous avez un bâtiment qui peut être une crèche, qui peut être une école, qui peut être un collège. Et dans la plomberie, tout à la fin, on fait des essais pour éviter d'avoir des dégâts des eaux. On met de l'eau avec de la pression dedans pour éviter qu'on ait des problèmes. On fait très attention parce que une petite pièce oubliée quelque part, un serrage qui n'est pas assez suffisant, et vous pouvez avoir plusieurs milliers d'euros de dégâts qui arrivent bien sûr au mauvais moment, c'est-à-dire un vendredi après-midi, juste avant des fêtes ou des choses comme ça. Ça, c'est déjà vu. Donc, on fait vraiment attention. Et tout à la fin, quand le chantier est vraiment fini, que les gens rentrent dedans, c'est-à-dire pour une école, quand les élèves sont à 15 jours de rentrée dedans, on fait des opérations qui visent à nettoyer les réseaux pour éviter qu'on ait des problèmes avec des germes, ce qu'on appelle la désinfection. C'est quelque chose qui est relativement simple, ça prend 24 à 48 heures, mais il faut être vraiment très attentionné dans ce que l'on fait parce que, on n'aura pas de dégâts des eaux, mais le risque, c'est d'avoir des personnes après, a fortiori quand ce sont des enfants qui sont dans le bâtiment. On peut avoir des gens qui peuvent avoir des touristas, des diarrhées, des choses comme ça qui ne sont pas rigolotes. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Et j'avais un de mes gars qui est un vieux monteur qui prend ça un petit peu par-dessus la jambe parce que lui, il fait son chantier. Après, il va sur un autre chantier. Il y avait deux, trois choses où il avait été un petit peu négligent. Et après, on a dû passer vraiment minutieusement pour être sûr de bien faire les choses. Et quand on a bien passé le produit partout, qu'on l'a laissé agir, on fait ce qu'on appelle une analyse d'eau. On prend un peu d'eau et puis on l'amène sur un laboratoire qui va dire si on a bien travaillé ou pas, si les gens peuvent boire l'eau, si elle est potable, ou si au contraire elle a un danger pour l'homme parce qu'il y aurait un produit chimique ou des bactéries qui seraient restées malgré tout. Et ça n'y paraît pas, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'eau insalubre, avec des germes, c'est une des causes premières de mortalité dans le monde. Un peu moins en Occident, dans les pays développés. Mais par exemple, en 2012, il y avait eu à un moment des titres sur des journaux importants qui disaient que l'eau insalubre était responsable de 7 morts par minute. C'est des choses qui vont assez vite. Vous pouvez avoir des choses comme du choléra, des choses comme ça, qui se développent très rapidement dans des pays où il n'y a pas les bons réseaux d'assainissement. Et c'est donc des choses où, quand on est conscient de ça, on rigole pas, quoi. S'il faut, on passe une demi-journée de plus, mais on s'assure que les choses sont bien faites, parce que on veut pas vivre avec sur la conscience la mort ou en tout cas des problèmes pour des gens, des personnes humaines. Et c'est pas comme quand on travaille le gaz. Je travaille aussi le gaz. Le gaz, c'est facile. Vous ouvrez et puis vous sentez tout de suite si vous avez une odeur bizarre. Et là, il y a personne qui rigole parce que le gaz. Si jamais on laisse trop longtemps, ça fait boum. Et c'est visible. L'eau, c'est plus subtil. Et tout ça pour en venir au fait qu'on peut avoir deux comportements face à des problèmes qui sont assez subtils. C'est soit on fait les choses pour qu'elles soient faites. On met un, deux, trois produits, bon, on attend, allez, hop, on regarde, puis on part. Soit vraiment, on donne le temps, on se donne les moyens et on s'assure que tout est bien fait. Pour être sûr d'arriver au résultat que l'on veut, à savoir qu'il n'y ait aucun problème avec des germes. Tout cela pour introduire ce matin notre histoire, qui est une histoire qui va concerner deux frères. Alors, il y a encore quelques jeunes qui sont parmi nous. Une petite question pour ceux qui ont moins de 15 ans. Si je vous parle d'une histoire avec deux frères dans la Bible, est-ce que quelqu'un peut me dire de qui il s'agit? Bon, t'as pas 15 ans, mais c'est pas eux. Une autre idée? Caïn et Abel. Voilà, on va être dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. C'est un petit passage de l'écriture, mais en fait est très riche. Ces deux personnages, Abba et Kael, ont une histoire qui est liée du début à la fin. Ils sont frères, du même sang, même père, même mère, et ils sont nés dans la même culture, dans la même histoire, dans les mêmes traditions. Ils vivent au même endroit. Et ils nous parlent de deux sacrifices. Un sacrifice qui est plus excellent que l'autre. Quelle est la différence entre les deux? Quand on regarde bien, Abel a manifesté par son comportement, son attitude et ses actes une qualité de foi qui était absente chez son frère. Une petite question. Est-ce qu'Abel croyait en Dieu et son frère n'y croyait pas? À votre avis? Car il n'avait pas la foi? Il ne croyait pas en Dieu? Où se trouve le point de bascule? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a un sacrifice qui a plu à Dieu et l'autre qui lui a pas plu? C'est ce qu'on va regarder à la loupe. Et avant, on va juste redresser le contexte. On est à un moment de l'humanité qui est très particulier. Il y a eu deux choses très importantes qui se sont passées, qui ont changé le monde à tout jamais. La première, et ce n'est pas le téléphone ni TikTok, la première, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre. On a quelqu'un qui est indépendant de ce monde, qui a créé ce monde. Un petit peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que, non, c'est un petit peu avant, que le monde visible a été créé par des choses invisibles, par la parole de Dieu. Et donc, on a un Dieu qui a créé tout l'univers. Il a créé le ciel, la terre, les plantes, les animaux marins, les animaux. Et à la fin, en apothéose, il a créé l'homme et il a créé la femme. Et ce contexte-là fait que ça venait d'exister depuis peu. Parce que Abin et Kael, ce sont les premiers à être nés d'une femme de toute la descendance de l'humanité. C'était quelque chose de neuf pour eux. De même qu'ils découvraient la terre, c'était quelque chose de neuf également pour eux. La deuxième chose qui a radicalement changé, c'est qu'un petit peu après, on a eu ce qu'on appelle la chute. Et la chute, c'est quoi? C'est Dieu qui avait placé l'homme dans un endroit où il avait une vie facile, dans un jardin de délices, où on mangeait facilement, où il lui avait simplement donné la responsabilité de garder ce jardin, et une interdiction qui était celle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont mangé de ce fruit, de cette connaissance du bien et du mal. Ils se sont laissés séduire par quelqu'un qu'on appelle l'adversaire, dont le nom hébreu est Satan, qui leur a transformé la tête, qui leur a donné des mauvaises idées en leur donnant de mauvais arguments pour dire que en fait Dieu n'est pas si bienveillant que ça, qu'ils peuvent être comme Dieu en mangeant de ce fruit de cet arbre pour pouvoir par eux-mêmes choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ayant fait ça, l'homme et la femme ont tout de suite connu deux choses qu'ils ne connaissaient pas avant. La première, c'est la honte d'avoir mal fait. Et la deuxième, c'est la peur. On a un Dieu tout-puissant qui leur a créé un monde qui est bienveillant, qui leur donne une chose à ne surtout pas faire, et eux, ils le font. Et là, dans certains cas, pour certaines personnes un peu sanguines, on aurait pu dire, les carottes sont cuites pour eux. On sait que Dieu avait dit que si jamais ils en mangeaient, ils mourraient. De fait, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts de suite, ils sont morts après une longue vie. Et Dieu, dans sa patience et sa bonté, les a punis, mais il leur a permis quand même de continuer à vivre. Et on voit vraiment plein de douceur et de patience. On voit que Dieu n'a pas agi en fonction de l'offense qu'ils ont eue. Dieu leur a donné de pouvoir continuer la vie. Il leur a donné de pouvoir avoir des enfants, Caïn et Abel. Et on voit même que Dieu a aidé Ève, la première femme, à mettre au monde son premier fils, Caïn. Et donc là, on va regarder en détail ce deuxième passage qui est dans Genèse, au chapitre 4. On voit cette histoire de ces deux frères. Donc chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On reviendra dessus un petit peu après. Mais là, on a vraiment ce contexte de ce passage d'Hébreux. On a ces deux sacrifices avec un que Dieu agrée et l'autre qui n'est pas agréé. Alors, une réponse facile pourrait être de dire que Dieu fait du favoritisme. Ben voilà, Abel, c'est le petit dernier, c'est le petit chouchou. Ben, Dieu l'aime beaucoup. Et puis Caïn, bon, ben, c'est le premier-né. Bon, il est moins intéressant. Mais en fait, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans un passage des Actes. Hop, désolé, je suis un peu perdu dans mes notes. Le voilà. Actes 10, versets 34-35, où l'apôtre Pierre dit « En vérité, je connais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc ce n'est pas par favoritisme que Caïn a vu son offrande qui était rejetée. Alors quand on regarde le texte, quand on creuse un petit peu, on voit autre chose qui est frappante. C'est que l'offrande de Caïn nous est dit, hop, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et quand on regarde qu'a fait son frère, qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Abel, de son côté, en a fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc Caïn, il travaillait la terre. On ne sait pas si c'est des céréales, si c'est des choux, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est du fruit de la terre. On sait que la terre avait été maudite par Dieu à cause de la chute. Donc c'est un travail qui était dur. Il avait dit, il y aura des épines, il y aura beaucoup de labeur, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc il a fait un travail dur, et de ce travail dur, il nous a dit, ben, il a pris ce qu'il a trouvé, puis il l'a donné en offrande. Par contre, Abel, on voit qu'il était berger, donc il a aussi pris du fruit de son travail, mais on voit qu'il a fait une attention particulière à chercher ce qu'il avait de meilleur. Le nouveau-né, c'est vraiment l'espérance du futur. La graisse, c'est pareil, c'est quelque chose que le corps humain aime beaucoup. Si vous avez un doute, c'est pas pour rien que McDo fait fortune avec des frites bien grasses et que l'industrie alimentaire gave ses produits de sucre et de graisse. Donc c'est vraiment, on voit vraiment dans le comportement d'Abel le fait qu'il a voulu faire une offrande à Dieu, mais qu'il ne s'est pas simplement arrêté au fait de faire une offrande symbolique. Il a vraiment voulu honorer Dieu avec ce qu'il avait de meilleur, avec vraiment ce qu'il avait de mieux dans le travail qu'il avait fait. Là où Caïn a simplement pris des fruits de la terre. Peut-être, ben voilà, j'ai trois cagettes, j'en prends une. On ne sait pas les quantités, on ne sait pas la nature, parce que ce n'était pas là le problème. C'est vraiment cette intention de prendre quelque chose d'ordinaire, ou au contraire de prendre quelque chose de vraiment excellent, parce qu'au-delà de ça, on a cette volonté d'offrir quelque chose à son Créateur. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ce n'est pas Adam et Ève qui font un sacrifice. Tel qu'on le voit, on a l'impression que Caïn de lui-même, à un moment, il s'est dit « Ah, il y a Dieu qui existe, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui, dans sa colère, aurait pu nous détruire, parce qu'après tout, mes parents, ils ont fait des bêtises. Et malgré tout ça, il nous a quand même permis de vivre. Alors, la vie était rude, beaucoup plus rude que dans le jardin d'Éden, mais ils ont quand même vécu, et puis, bon, vu qu'on est là, ils ont quand même prospéré. Et donc, il y a eu cette volonté d'honorer le Seigneur. Mais il a manqué un truc. Alors qu'Abel, lui, il a considéré que ben voilà, c'est Dieu. Il y a cette majesté et on ne peut pas le traiter n'importe comment. Et oui, je vais lui donner une partie, je vais faire un sacrifice sur une partie de ce que j'ai fait, sur une partie de ma sueur, sur une partie de mon temps et de mon travail. Mais je veux le meilleur parce qu'il est au-dessus de tout. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort du texte que Abel a vraiment eu cette foi, cette confiance en Dieu pour vraiment s'investir sans compromis pour donner ce qu'il avait de meilleur au Seigneur. Et pour répondre à mes questions de tout à l'heure, Ben, Cain, il croyait en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il croyait en Dieu? Parce que moi, si je regarde derrière moi, je ne connais pas la vie de mes aïeux sur 5 ou 6 générations, sur la trentaine de personnes que représente, si je vais jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père, je ne connais pas tous les noms, je ne connais pas toutes les dates de naissance, je ne connais pas les métiers, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ont vécu, leurs victoires et leurs échecs. Par contre, je connais la vie de mes parents. Je connais les réussites, je connais à peu près les dates, je connais les noms, je connais leur manière de penser. Et de la même manière, Adam et Ève étaient connus de leurs enfants. Ils ont vécu ensemble, ils ont partagé des choses. Et au moment où ils font des sacrifices, ils étaient encore en vie, vu qu'après, ben, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Ça va mal se passer entre les deux frères. Et Ève et Adam vont à nouveau avoir un fils qui va s'appeler Seth. Et donc, ils étaient encore en vie. Il y avait encore des échanges qui faisaient, qui font, enfin, où c'est certain que Cain et Abel connaissaient toutes les discussions qu'ont eu Cain, enfin, qu'ont eu Adam avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam régulièrement voyait Dieu et échangeait avec lui. C'est pour ça qu'à un moment, quand Dieu a voulu le chercher, quand ils ont désobéi, ils se sont cachés. C'était naturel pour eux de se rencontrer, de discuter, d'échanger sur des choses. Donc, c'est quelque chose qui est frappant, qui est marquant. Quand on voit aujourd'hui quelqu'un qui a une parole de Dieu, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ou ce n'est pas le cas. Mais il y a des gens où à un moment, Dieu leur parle d'une manière ou d'une autre, de manière significative. Et simplement, une parole, une phrase, ça marque toute une vie. Ça fait prendre des directions, ça fait des changements. Eux, ils ont fait des échanges. On ne connaît pas les temps, on ne connaît pas les dates, mais il y avait une proximité de Dieu avant la chute qu'ils ont perdue après. Et c'est pour ça que Cain avait cette notion de ce Dieu qui était là, où il avait pu un accès, avec cette volonté de renouer avec lui. Il avait été offensé, Dieu. Il avait été offensé parce que Adam et Ève, ce qu'ils ont voulu en fait, c'était bon, bah, on va faire notre vie sans toi, Dieu. On va choisir nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. En gros, on n'a plus besoin de toi, quoi. C'est bien, tu nous as créé une belle terre et puis un super jardin, et puis voilà, on va se débrouiller, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Alors que Dieu, dans son amour, il a créé le jardin pour qu'on puisse vivre correctement. Enfin, il y a vraiment cette attention et cet amour de Dieu pour nous. Parce que on n'est pas simplement des créatures comme on ferait des Legos, puis on aurait des Legos dans un coin. Non, Dieu, il a plein de miséricorde et de compassion pour chacun d'entre nous. Et donc, il y avait ce désir de Caïn et d'Abel de vraiment renouer le dialogue avec Dieu et de l'honorer parce qu'ils ont réalisé qu'ils méritaient d'être honorés. Sauf qu'il y en a un qui l'a fait de manière un peu superficielle et l'autre qui a vraiment mis tout son cœur. Et donc là, on rejoint un petit peu la prédication de la semaine dernière de Béa, qui était sur la reconnaissance, parce que Cain et Abel, il y avait deux choses sur lesquelles ils pouvaient honorer Dieu. C'est le Créateur, il est plein de majesté, il a créé le ciel et la terre, et il bénéficie de la création. Mais en même temps, il y avait aussi cette notion du pardon. Du pardon, du fait que Dieu ne les a pas traités en fonction de la gravité de l'offense que les hommes lui ont fait, mais il a eu plein de patience, il a eu un châtiment, mais qui est vraiment minoré par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Donc revenons à notre Caïn. Pourquoi est-ce que Caïn a eu ce problème-là? Quand on voit un petit peu plus loin, on est surpris de voir que Abel n'a pas de discussions qui nous sont rapportées avec Dieu. Il y a quelque chose qui fait que les deux ont vu que le sacrifice d'Abel a été agréé. On ne sait pas quoi. Il y en a qui disent qu'une colonne de feu est descendue sur son sacrifice, comme Élie un petit peu plus tard. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est manifeste qui a fait que Cain a été triste. Il y a quelque chose qui fait que Abel a été privilégié. Il y a quelque chose qui montre que Abel a été béni et que lui ne l'a pas été. Mais il ne nous est pas rapporté que Dieu a appelé Abel. Il n'y a pas eu de discussion entre eux. Par contre, il y a eu une discussion avec Cain. Et cette discussion, voilà ce que Dieu dit, donc toujours en Genèse, chapitre 4. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu a une discussion avec Caïn suite au fait que son offrande n'a pas été agréée. Et ce que Dieu met en avant, avant tout, c'est le fait qu'il y a ce péché qui est tapé à la porte de Caïn et que Dieu demande à Caïn de lui résister. Dieu l'encourage. Dieu ne dit pas « bon ben, je ne t'aime pas parce que tu as mal agi, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, sors de loin de moi, je ne veux plus entendre parler de toi ». Non, Dieu au contraire, il vient dans sa proximité et il dialogue avec lui pour mettre le doigt sur quel est le problème. Parce que la volonté de Dieu face au péché, c'est que le pécheur réalise qu'il a mal agi, qu'il se repente, qu'il demande pardon et qu'il change d'attitude. Et là, on est vraiment dans ce schéma-là où Dieu vient pour dire « Ok, je n'ai pas agréé ton sacrifice, là, ton sacrifice, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne me plaisent pas. » Mais Dieu l'encourage. « Ok, aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, ce n'est pas forcément comme ça. Résiste, je suis avec toi. Et à un moment ou à un autre, si tu es droit, ben moi, je vais agréer ton sacrifice. » Hélas, tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Caïn a tué son frère. Il n'a pas résisté. Si Dieu donne une information, s'il donne un conseil, s'il donne un encouragement, c'est qu'il aurait pu. Il aurait pu tenir bon. Il aurait pu éviter. Il ne l'a pas fait. Malgré tout, Dieu vraiment aime Abel, malgré le fait qu'il ait laissé son frère le tuer, malgré le fait qu'on ne voit pas que Dieu ait parlé directement à Abel de son vivant, mais Dieu honore Abel, il l'a honoré en montrant qu'il a agréé son sacrifice, et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est donné comme modèle de quelqu'un qui vraiment avait foi et confiance en Dieu, donc c'est vraiment au-delà du simple fait de croire que Dieu existe, ça va vraiment plus loin, il avait agi, il s'était comporté comme quelqu'un qui considère Dieu comme celui qui est souverain, tout-puissant, digne d'hommage et de louange, digne d'avoir le sacrifice de ce qui est meilleur dans nos vies. Alors, sur le principe, est-ce que Caïn a eu tort de présenter son offrande? Ben non. Parce que on a plusieurs encouragements dans toute la Bible qui nous encouragent à rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Le fait d'avoir des choses bancales, ça arrive. Notre nature humaine nous pousse vers le péché. Mais quand on a conscience des choses, ce qui est important, ce n'est pas de faire la paix avec notre péché, c'est de ne pas rentrer dans une forme de religiosité pour faire comme si de rien n'était et garder notre vie, avoir une vie à l'église et puis une vie en dehors de l'église. Non, le Seigneur, ce qu'il demande, c'est vraiment aider à la personne à grandir, à vraiment résister au mal et à pouvoir vraiment être pardonné parce que Jésus est mort à la croix et parce qu'à la croix, le Seigneur a donné le pardon complet de nos péchés. Et celui qui reconnaît quand il a mal agi, celui qui abandonne son mauvais comportement, le Seigneur lui promet un pardon total. C'est vraiment ça, tout l'œuvre de la croix, c'est de permettre à celui qui a mal agi de recevoir un pardon complet et de pouvoir après s'approcher de Dieu et de pouvoir présenter une offrande qui est, là on avait un morceau d'agneau et puis un bout de graisse, c'est parce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, mais simplement l'offrande de nos lèvres, simplement le fait de le remercier, simplement le fait de prendre en considération ce que Dieu nous dit pour pouvoir être dans l'écoute et dans l'obéissance, on voit que c'est des choses que Dieu aime, que Dieu recherche parmi nous. Et si tout n'est pas correct, s'il y a encore des choses où on a des difficultés, le Seigneur n'est pas là pour nous rejeter, il est là pour nous encourager à être dans le vrai et à vraiment tout déposer à ses pieds parce que lui, il va nous aider à grandir et il va nous aider parce qu'à la croix, il a acquis la victoire sur le péché et il est capable de mettre en nous le vouloir et le faire, il est capable de mettre en nous la capacité à marcher avec une vie nouvelle, loin du péché. Et on a des avertissements qui sont durs dans la Bible, qu'on ne va peut-être pas lire parce que ça prendra un petit peu de temps, mais on a notamment Ésaïe chapitre 1, où Dieu dit des choses terribles à son peuple, à Israël, où justement il y avait des gens qui venaient pour faire tout leur service religieux impeccable. Ils faisaient les sacrifices comme Dieu l'avait demandé. Ils chantaient, ils faisaient les nouvelles lunes, les sabbats, les fêtes, impeccable. Sauf que ces gens-là, ils mentaient, ils trichaient, ils volaient, ils étaient adultères, ils tuaient le pauvre parce qu'ils avaient de la force et qu'ils pouvaient du coup ramasser des biens. Et ces choses-là, le Seigneur les voyait, il disait, je ne peux pas supporter vos sacrifices. Je ne peux pas accepter que mon nom soit associé au mal. Je ne peux pas accepter que mon nom soit associé au péché. Et on est vraiment dans cette optique-là où le Seigneur nous demande vraiment d'être vigilants pour ne pas laisser des choses dans nos vies, dans nos attitudes, qui ne lui plaisent pas. Si nous voulons que notre offrande soit agréée de Dieu, si nous voulons que le Seigneur soit attentif à nos prières, qu'il prenne plaisir à notre louange et à notre adoration, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on demande pardon. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on change. Toutes les choses qui déplaisent au Seigneur. Et on a plusieurs encouragements, notamment l'apôtre Paul qui disait à 2 Timothée chapitre 2 verset 19, qui dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. » Alors on peut tomber, mais il ne faut pas rester à terre. Il faut vraiment demander pardon au Seigneur et vraiment se battre pour, comme Caïn, résister, enfin comme ce qu'il aurait dû faire, résister à ce mal qui tourne autour de nous. Nous sommes tous comme Caïn, on n'est pas meilleur que lui, c'est notre nature. La chute fait que le corps de l'homme, la nature de l'homme est attachée au péché. Et Jésus est venu pour briser la puissance du péché. Le péché amène la mort. Aujourd'hui, on est encore dans la présence du péché parce qu'on est dans un monde déchu. On attend du retour du Seigneur, mais on a cette espérance qu'un jour, on sera auprès de Dieu et qu'on sera tous parfaits auprès de lui. Le Seigneur ne nous rejette pas, il nous accepte tel que l'on est et il nous appelle à grandir. Il nous encourage, il ne veut pas que l'on cache nos fautes, il veut vraiment qu'on les confesse devant lui parce qu'il veut nous relever, il nous donne la force de vaincre. Mettons donc tout notre cœur pour donner à Dieu ce que l'on a de meilleur, même si cela nous coûte de renoncer à nous-mêmes, même si cela nous coûte de renoncer à ce que nous jugeons bon, mais que Dieu juge mauvais. Parfois, c'est facile d'utiliser le mensonge pour se sortir de situation. C'est facile de voler par moment, mais c'est des choses que Dieu n'accepte pas. Et même s'il veut parfois qu'on passe par des moments, par des chemins qui sont plus difficiles, lui, il est avec nous dans nos problèmes et nos difficultés quand on est intègre. Et il est aussi capable de nous élever, de nous donner chaque jour, c'est sa promesse, ce que l'on a besoin. Il est capable de prendre soin de nous. Ce n'est pas dans le péché qui peut nous rendre heureux, c'est vraiment le fait de marcher avec Dieu, d'être fidèle, parce que lui, il est fidèle. Et voici ce que nous dit l'apôtre Pierre. Il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc, on n'est pas laissé seul face à ce mal tapis à notre porte. On a vraiment cet encouragement parce que Dieu est avec nous pour nous aider à être debout dans la dignité, pour ôter toute honte, pour ôter toute déchéance qui est liée au péché. Parce que le plaisir du péché qui est court et qui dure un temps est suivi de la honte, il est suivi de la déchéance. Il y a trop d'exemples pratiques, concrets, faciles à faire, de vie complètement brisée, que ce soit de vie personnelle ou de famille entière, parce qu'il y en a un ou l'autre qui a fait des choses qui sont abominables devant Dieu, comme le mensonge, l'adultère, le vol, qui ont des conséquences à long terme, qui sont dramatiques, qui parfois peuvent toucher les enfants sur plusieurs générations. C'est vraiment des choses où le Seigneur, dans sa bonté, a mis un cadre, notamment au travers les 10 commandements, au travers la loi qu'il a donnée à Moïse, pour éviter que l'on fasse n'importe quoi de notre vie. Il nous donne une liberté dans laquelle on peut s'épanouir, dans laquelle on peut vivre en harmonie avec Dieu et avec notre prochain. Et c'est pour ça que vraiment toute la loi et la Torah, tout ce que demande le Seigneur, c'est résumé en deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment le résumé. Et vraiment, quand on sort de ce cadre-là, il y a quelque chose d'avilissant et de destructeur. On a un autre encouragement dans l'Épître aux Hébreux qui est, en parlant de Jésus-Christ, offrons-lui sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom, et n'oublions pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et un petit peu avant, dans l'Épître aux Romains, on a aussi Paul qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il nous explique comment « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide et qu'il puisse agréer nos louanges, notre adoration, notre service et notre vie pour qu'elle lui rende hommage.